du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Allez, on est de retour autour de cette table. Belle tablée ce jour, je dois dire. Pour ce numéro 605, Bruno André, Pierre-Louis Rudy, Patrick Faure, Jean-Claude Hérault et notre invité Philippe Bié, maire de Vitrolles, qui est avec nous. Rebonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Ah, vous êtes bien.
Ah ouais. Allez, c'est l'apéro après la messe.
On va parler des gilets jaunes. Voilà, remontés comme des coucous, hein, qui se trouvent un petit peu face à un mur, on peut le dire.
Bah, notre coucou d'ailleurs.
On veut bien discuter, signale-t-on en haut lieu, mais de toute façon, on ne changera pas de cap. Ce qui fait dire aujourd'hui à certains politiques, bon, lâchez du lest les enfants. Hervé Morin.
C'est le mec qui faisait de la cuisine.
Que j'avais personnellement abandonné dans sa cuisine au moment des vœux. C'était en janvier 2012, juste avant les élections présidentielles. La dernière fois, je pensais qu'il était à la retraite. Eh bien non, il est revenu, il est rené de ses cendres, comme on dit. Il a tweeté ce qu'il manque dans le discours d'Emmanuel Macron ce matin. Bon, il fait référence au discours qu'il avait fait cette semaine. C'est le geste qui permet de renouer le dialogue avec nos concitoyens. Il dit: il faut suspendre la hausse des taxes le temps que l'on trouve un nouveau schéma. J'aurais tendance à abonder dans son sens, arrêter de taper toujours sur les mêmes, peut-on lire entre les lignes de Morin. Et puis, je sais pas moi, attaquez-vous peut-être aux nantis, par exemple, hein, ceux qui touchent des salaires de 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. Il y en a, hein. Autour de cette table, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. En off, on disait qu'il y en avait.
Il n'y en a pas. supprimer tout ce qui est un petit peu symbolique, tout ce qui symboliquement tracasse le chaland, à savoir par exemple les avantages des politiques. Hein, c'est vraiment un exemple au hasard, avec encore un signal qui n'a pas été très judicieux, hein, envoyé par le Sénat cette semaine. Les sénateurs ont voté une hausse de l'avantage fiscal des maires contre l'avis du gouvernement. Alors, je ne veux pas dire que les maires sont des nantis, hein, loin s'en faut. Mais le vote de cet amendement vendredi dernier fait un peu tache dans le bordel ambiant. Hein. On pourrait également supprimer, par exemple, les avantages assez extravagants de nos anciens présidents. Hein. Bon, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, mais bon, ça ne mangera pas de pain. Sinon, taxer le capital. Oh, drôle d'idée, ça, taxer le capital. Ah, oui. Hein. Ça fait drôle d'idée. Sommer les Google, Facebook, Apple et consorts de payer leur putain d'impôts chez nous. Ça serait quand même la moindre des choses. Bon, personnellement, j'ai abandonné l'idée des paradis fiscaux qui existeront toujours. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on ne pourra jamais les effacer. Revoyons un peu les salaires des grands patrons. Voilà, symbolique, hein. Niveau symbolique, c'est quand même violent, hein, c'est violent. Une pensée émue d'ailleurs à Carlos Ghosn, le con, même pas capable de gruger intelligemment le fisc.
Il est toujours en prison. Hein.
Me fait penser un petit peu à la réaction de Chirac lorsqu'il avait appris pour le compte en Suisse de Cahuzac.
Cahuzac me dégoûte. Ah non, pas vous, monsieur Chirac. Ah si, désolé, mais je suis outré, scandalisé, consterné, effaré. Ah quand même. Ah, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Le type, 20 ans de politique, et il met que 600 000 euros de côté. Pardon ? Mais c'est un tocard. Il n'a pas sa place en politique. 600 000. C'est ce que je faisais en un mois. Je vous parle que du temps où j'étais la mairie de Paris, hein. Eh oui, Jérôme Cahuzac a réussi la prouesse de choquer Jacques Chirac.
Et au passage, bon anniversaire à Jaco qui fêtait ce jeudi 29 ses 87 ans.
Ah
bon,
oui, quand même.
Vous avez vu Ghosn, hein, ça rigole moyen chez les Nippons. Ils l'ont chopé donc à l'aéroport, direction la garde à vue. Celle-ci terminée, ils lui ont dit une semaine de plus en rab, hein, de garde à vue. En France, il y aurait déjà Dupond-Moretti qui serait monté au créneau. Il aurait fait une conférence de presse pour crier au scandale en mettant en avant les droits de l'homme et l'article du présumé innocent du code pénal. Au Japon, l'article, c'est le présumé coupable. Allez, hop, au newf, une cellule de 2 mètres sur 3, une chaise, une paillasse et 3 bols de riz. Et voilà, Carlos, il n'avait pas le gilet, mais il a ri jaune.
Bravo. Elle était facile.
Bref, oui, il y a des symboles. Il y a des symboles quand même à faire tomber. Et puis, il y aurait peut-être un dossier auquel il faudrait éventuellement s'attaquer. Vous allez tous être d'accord avec moi, c'est la fraude fiscale. Parce que le problème de tous nos maux, il est là quand même. Il est là, dans ce dossier. Hein. 100 milliards qui s'envolent, à peu près. Hein. Alors, ils estiment entre 80 et 100 milliards, mais plus proche des 100 milliards. 100 milliards qui ne tombent pas tous les ans dans les caisses de l'État. Alors, je ne parle pas uniquement de l'évasion fiscale. Je parle de la fraude fiscale. Connaissez le chiffre du déficit budgétaire en France ? 82 milliards.
Mmh.
Voilà.
Chaque année.
Ouais. 82 milliards et il y a 100 milliards qui ne rentrent pas. Mmh. C'est dommage, hein ? Parce que s'il rentrait, hein, s'il rentrait, ça serait
pas mal. Non, non.
C'est peut-être ça le problème de fond.
Bref, question, le gouvernement, les enfants, se trompent-ils de cible? Vous avez 2 heures.
Les députés, non, parce que là, entre deux, ils se sont quand même votés des indemnités de maintien de salaire pendant un an.
Ouais.
Sans que personne ne le sache.
Ouais, ouais. Allez, comme je donnais l'exemple du Sénat. Donc voilà, c'est des petites lois. Vous allez me dire, les maires, moi je trouve ça bien aussi qu'ils aient aussi des avantages, parce qu'avec le boulot qu'ils font, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne période en ce moment de sortir ça
d'une manière générale, peu importe la période, mais quand on est élu, on doit être exemplaire. Je ne cesse de le répéter. Et on n'a pas à se voter des lois qui nous accompagnent. Quoi. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je ne suis pas populiste du tout. Mais je veux dire, il ne montre pas l'exemple, c'est dommage.
Pierre-Louis ?
Ça vous a jamais échappé que depuis des années, on nous parle de fraude fiscale et qu'on arrive à la quantifier.
Ouais.
On la quantifie. Hein.
Mais on n'arrive pas à la...
Donc on sait où elle est.
On
n'arrive pas à la chercher.
Ouais.
C'est fou,
c'est
ça.
Quand même un truc de fou,
c'est
ça.
C'est quand même un truc de...
C'est-à-dire qu'on sait où c'est. Mais on laisse faire.
Alors,
vous ne trouvez pas que c'est de l'enfumage, ça?
J'ai trouvé pire parce que dernièrement, Joël Giraud s'est attaqué aux niches fiscales. Je ne sais pas si vous avez.
La niche, c'est autre chose.
Les niches fiscales, il a dit il y en a plus de 400 à peu près en France et tout, on les a dénombrées, etc. etc. Mais on n'arrive pas, apparemment, il a dit, mais les impôts n'arrivent pas à savoir laquelle coûte combien de titulaires, enfin de bénéficiaires de telle niche et tout. C'est quand même aussi un petit peu...
Non, mais la niche, c'est légal. On l'appelle niche, mais c'est légal.
C'est la loi.
La fraude fiscale,
c'est pas légal.
C'est pas légal.
Par contre, on arrive à la quantifier.
C'est ça qui est que... Moi, je me demande de temps en temps si c'est pas celle, finalement, qui est redressée. Mais si elle est redressée, elle est quelque part remboursée, et en plus, elle est taxée.
Parce qu'on parle à la fois de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale.
Alors
moi, j'ai regardé un peu les
L'évasion
chiffres.
Fiscale, elle n'est pas énorme. Mais par rapport à la fraude fiscale.
C'est 3 milliards.
5, moi j'en ai vu 5.
Mais moi, j'ai vu 3 milliards, tu vois, j'exagère pas.
Vous l'avez vu? Ah, mais vous la connaissez aussi?
Oui. 1500, maintien des noms.
Non, j'ai pas vu.
Attention au vocabulaire.
C'est lui qui va en Suisse avec les monnaies.
Non, mais les 3 milliards, ils sont, comment dire, c'est des organismes officiels. Ils les ont.
Mais tu les connais. C'est la rumeur.
On estime à 1500 familles en France qui possèdent à peu près donc 50 millions chacun à l'extérieur, ce qui représente 5 milliards à peu près, ce qu'il disait, hein, grosso modo, 5 milliards d'argent à l'étranger, dans des paradis fiscaux. Voilà. Donc ça représente 5 milliards. Voilà. 5 milliards. Vous allez me dire, 5 milliards.
C'est que dalle
sur les 100.
Ah ben tu les transformes en SDF.
Le reste, c'est chez nous.
Oui,
le reste, c'est chez nous.
Tu les transformes en SDF, ça ne te paye même pas les intérêts. 3 milliards.
J'ai regardé ce que ça représentait.
Non, c'est pas rien.
Aujourd'hui, les hôpitaux. Ils vont être. Le gouvernement a décidé sur la mandature de faire 3 milliards d'économies sur les hôpitaux.
On les a.
Eh bien, on les a là.
Tout à fait.
Sur 5 ans.
Mais on est d'accord.
Hein, voilà, mais puisque tu parles de Joël Giraud, je voudrais simplement
dire. C'est pas moi.
Je ne sais pas qui en a parlé. c'est toi. Il y a un article sur Challenge qui vient de sortir, qui est sorti le 29. Combien on est aujourd'hui? Le 28, en fait.
On est le 29 aujourd'hui.
Oui, il est sorti aujourd'hui. Un article de Challenge, j'ai vu ça sur Facebook ou Twitter, je ne sais plus, peu importe, qui parle de Joël Giraud, le montagnard. Et il a fait une descente, parce que vous savez qu'il est rapporteur général du budget.
Oui.
Et c'est le député le plus puissant à l'Assemblée. Ils expliquent toutes ses prérogatives. Et lui, il peut, avec toute son équipe, il a 11 personnes de haut niveau qui travaillent avec lui. Il n'est pas tout seul, il a des fonctionnaires avec lui. Il peut faire une descente à Bercy quand il veut. Et il a fait, un matin, à 8h30, il a déboulé à Bercy. Et vous lirez l'article de Challenge.
Ah,
et vous verrez, c'est super intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que fait
Facebook,
Joël.
Et puis on
aime ou on n'aime pas Joël Giraud.
Mais
il est super actif.
Ben oui, c'est un député actif.
Mais Philippe.
Mais les niches, est-ce que justement, c'est parce qu'il provoque justement ce problème de récupération d'impôts? Il y en a tellement. Moi qui travaille tous les jours, j'ai des relations quotidiennes avec les agents des impôts.
Ouais.
Même eux ne savent plus.
Ils savent plus où
comment les contrôler, des choses où ils sont perdus dans la masse.
En parlant de ça, tu mets le doigt sur un truc important, c'est que je lisais aussi effectivement donc dans la presse qu'il y avait le problème aussi de l'évasion fiscale et de tout cet argent qui ne rentre pas chez nous, c'est qu'on n'a pas assez de personnes pour contrôler.
Ben oui,
on n'a plus assez de personnes au niveau des impôts, des inspecteurs qui sont là pour essayer de voir un petit... Il y en a de moins en moins.
Bien sûr.
Donc, eh ben, à partir de là, il y a plus en plus de fraudes.
Maintenant, les contrôles se font à distance. Ils ne viennent même plus dans les locaux.
Ben voilà. Vous vous souvenez du film Signe extérieur de richesse? Vous vous souvenez? avec Josiane Balasco qui contrôlait Claude Brasseur. Ben voilà, voilà. Là, on a pu ça. Et puis, ça faisait des belles histoires parce qu'ils tombaient amoureux et tout. Voilà.
J'ai jamais rencontré Josiane Balasco.
Dîner de con aussi.
Comment ça, le
dîner de con?
Ah ben, le dîner de con, bien non, sûr. Mais
c'est, enfin, pas ce soir, c'est mon invité, quand même.
Non, on ne te garde pas pour manger.
Ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire quand même qu'on a un système qui est plus du tout adapté, quoi. Il va peut-être falloir qu'on en change un jour ou l'autre. Oui. Parce que tout à l'heure, tu donnais des chiffres. Alors. Moi, j'ai récupéré un autre chiffre que j'ai vérifié, l'un de données. 1% des fortunes ont accaparé en 2017, l'année dernière, 82% des richesses créées l'année dernière. Est-ce que c'est normal?
Il faut les exploser.
Est-ce qu'on peut continuer comme ça?
Tu parles de quoi? Attendez. Tu peux redire le chiffre, là, s'il te plaît?
1% des plus fortunés en France ont accaparé 82% des richesses créées dans notre pays.
Je ne crois pas.
Eh bien, c'est un chiffre officiel.
Non.
Alors
c'est marrant ce matin.
Mais vérifie.
Là c'est une source que je n'arriverai pas à nommer parce que je ne m'en souviens plus, mais on disait que les 1% des plus riches en France avaient réussi à augmenter leur fortune de 6%, ce qui était énorme.
Oui, mais ça c'est pas contradictoire avec ce
que
je viens
parce que
te
6%
dire.
C'est pas 82.
Ah mais non, ils ont accaparé 82% des richesses créées.
82% de la richesse créée.
C'est pas contradictoire.
D'accord. Leur a permis d'augmenter de 6% dans l'absolu.
Peut-être qu'effectivement, dans les 82, il y a 6% d'augmentation. Effectivement. Mais c'est pas du tout contradictoire.
Si leur fortune, qui était estimée à 5 milliards tout à l'heure, c'est ça? Non? Leur fortune?
Ben moi je dis, non, c'est pas leur fortune, c'est l'évasion fiscale, qui représente 3 milliards d'euros par an.
Non, mais moi j'ai du mal à croire... 82% des richesses, tu te rends compte ce que ça fait?
Mais il faudrait quand même que tu regardes les choses avec objectivité. Non, il y a quand même des inégalités dans notre pays. C'est pour ça qu'il y a les gilets jaunes.
Oui, je suis d'accord. Non, mais
82% des richesses, c'est pas possible.
Moi, je suis d'accord.
C'est pas comme ça. Non, pas possible.
Je suis d'accord avec ces gens. Il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup, énormément d'argent et qui ne sont pas forcément imposés. Mais le problème, après, tout à l'heure, Thierry le disait dans son introduction, j'accepte les paradis fiscaux parce qu'on n'y pourra rien. Mais le problème, il est bien là. C'est tant qu'on n'arrivera pas à avoir en Europe... notamment, déjà commençons par l'Europe, une harmonisation fiscale, on n'y arrivera pas. Il suffit d'aller en Irlande
ou Luxembourg
ou dans un pays voisin et tu arrives à contourner le fisc. C'est aussi ça, c'est aussi problématique. Et je pense aussi que trop d'impôts, comme c'est Chirac, je crois qu'il disait,
trop d'impôts tue l'impôt.
Et ça, c'est vrai parce que un petit artisan, un petit commerçant, un petit agriculteur, dès qu'il gagne un peu d'argent, ben, il est matraqué de tous les côtés, y compris sur la succession de ces entreprises. Et ça, à mon avis, il y a quand même quelque chose. Et c'est pas je ne parle pas des 1% de la population qui détient...
On est vice-champion du monde. Des taxes.
Oui, 68%, je crois. Tu en as tout le temps 40, des taxes.
45.
Et ce matin, j'ai entendu qu'on était en premier en Europe pour la troisième année consécutive.
Ah oui, oui.
Et ça marche pas mieux. Alors qu'on a un système, social de retraite, de chômage.
Oui, alors ça, faut pas oublier quand même.
Un des meilleurs.
Faut pas oublier qu'on paye beaucoup, mais on a quand même, à côté de ça, quand même. On sait qu'on a quand même l'argent qui sert aussi à quelque chose. Alors, on est trop taxé.
Faut pas l'oublier.
Mais bon, je voudrais. Continuer, mais tu...
Non, c'est vrai que le point de départ, c'est quand même l'harmonie fiscale. Hein. C'est clair que... Et pas au niveau simplement européen, mais au niveau mondial. Parce qu'il y a quand même une donnée que tout le monde partage. Alors, en tout cas, je ne connais pas un parti politique qui soit contre. C'est la taxation du capital. Mmh. Ou en tout cas des actions ou de toute la spéculation. Personne n'est contre. Sauf que ce n'est pas possible.
Parce que
c'est le fonds de commerce de certains États et de certaines grandes entreprises, voilà, qui à la limite tirent leur épingle du jeu du fait qu'ils vont gagner de l'argent grâce à ça et que si ils n'arrivaient pas à en gagner un petit peu plus dans certains pays, ça ne les arrangerait pas. Voilà, c'est comme ça. Donc personne n'arrivera d'une seule voix mettre tout le monde d'accord. C'est pas
possible. On nous explique que de toute façon, c'est la finance qui a placé là où est Emmanuel Macron. Hein. C'est la finance qui l'a placé. Et donc, il est tenu par les couilles, en quelque sorte, par la finance. Ouais, donc après, on y croit, on n'y croit pas. Bon, après, il y a du fantasme ou pas.
OK quand tu as dit ça, mais on parlait des gilets jaunes tout à l'heure aussi. Il y a un paquet de gilets jaunes aussi qui ont voté aussi pour lui.
Oui, mais tout à fait.
Parce que
revenons.
Moi, je parle du premier tour, je ne parle pas du deuxième.
Revenons au mouvement. Le mouvement qui essaie de se structurer cette semaine, vous avez vu, ils étaient 8, hein, apparemment, 8 porte-parole. Hein, maintenant, ils sont 0, hein, grosso modo. Celui qui a lancé cela s'est expliqué sur les réseaux sociaux, c'est Éric Drouet.
C'est ça, c'est de lui que je parlais.
Éric Drouet. Éric Drouet, qui est encore donc visiblement à la tête du avec une fille,
oui.
Qui s'appelle Laetitia,
Priscilla.
Voilà, exactement. Il s'est trouvé là sur le plateau le lendemain parce qu'il avait été reçu. Il a d'abord été reçu par
le ministre
de Rugy. On est d'accord. C'était mardi soir. Donc le lendemain, je crois qu'il se trouvait sur le plateau de LCI de Pujadas. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette émission, La Grande Explication. Petit débat autour de quelques invités. Éric Drouet était là et il y avait Romain Goupil, réalisateur. Et voilà l'échange qu'il y a eu entre eux.
Ce qui caractérise les Gilets jaunes, et notamment Éric Drouet, c'est le côté adémocratique. Il n'y a pas la façon dont vous fonctionnez, il n'y a aucune élection, aucune assemblée générale, aucun délégué tiré au sort, si bien qu'Éric Drouet se permet le 13 novembre dans Le Monde de dire avant le blocage du 17 novembre, l'objectif, c'est de monter sur l'Élysée. Il le dit avant qu'il y ait quelques consultations que ce soit, puisque le mouvement n'a pas commencé. Après, il sort hier soir du ministère de l'écologie et il dit, en coupant la parole à Priscilla, je suis d'accord pour la manifestation samedi. Mais où est la consultation? Et tu as fait nommer 8 communicants. Ces 8 communicants, on les a vus passer, maintenant ils ont disparu. Mais comment tu fonctionnes? C'est adémocratique. C'est-à-dire que toi, tu es pour la manifestation, tu es pour la manifestation sur les Champs-Élysées, tu es pour je sais pas quoi. Et moi, le problème que j'ai, c'est que je peux pas vous poser des questions sur la façon dont vous fonctionnez. C'est quoi ces insultes hyper racistes à Cognac? Parce que dame ne voulait pas mettre son gilet jaune. Absolument. Vous l'avez sorti de la bagnole en disant, elle était noire avec ses enfants, tu n'es pas chez toi ici. Et ils ont tambouronné.
N'est pas responsable de chaque gilet jaune en France.
Eh bien, justement, c'est ça. Alors, que je reproche. Qu'est-ce qui s'est passé à Calais?
Vous jouez le jeu des médias, en fait, c'est ça. Vous reprenez 5% du mouvement.
Alors,
qui se passe Drouet. Mal.
Mais à qui je m'adresse pour poser
définir
les questions
le mouvement
Monsieur
en général, c'est ça, en fait.
Non,
mais d'où tu sors? D'où tu pars? C'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où?
Personne ne m'a élu.
Alors, pourquoi tu te permets de dire...
Quand on met quelqu'un en cause, il a le droit de répondre. Allez-y.
Donc, en fait, sur 5% des blocages qui va mal se passer, vous allez définir le blocage en lui-même en entier, c'est ça? Donc sur la population, il va y avoir 5% de voleurs, toute la population va être des voleurs, c'est ça? Vous définissez ça comme ça, vous définissez le mouvement comme ça?
Voilà, un échange un peu compliqué.
Mais Romain Goupil, c'est l'ancienne 68, ça, non?
Oui, oui, tout à fait, ouais. Absolument. Oui, non, mais non.
On pourrait aussi parler de comment étaient gérées les assemblées générales en 1968.
Mais on est d'accord.
Bah, on pourrait aussi en parler, parce que lui, il vient donner des leçons à ce gars que je ne connais pas. Faudrait déjà qu'il balaye devant sa porte notre ami Romain Goupil.
Le problème, si tu veux,
c'est justement parce qu'il sait qu'il dit ça.
Ouais. Le problème, si tu veux, c'est qu'en 68, il avait comme 20 ans. Voilà.
Ouais, et quand il y avait Cohn-Bendit et
voilà, quand tu as 20 ans en 68, en 98, c'est plus pareil. Et puis en 2018, c'est encore plus
il
pareil.
Il s'est un peu embourgeoisé, lui.
Bah, comme toi. Hein.
Pas du tout. Pas du tout.
Moi, j'ai ça gardé, te pendait au nez.
J'ai gardé les mêmes réactions que quand j'étais jeune.
Taquille.
Non,
je veux dire. Jean-Claude.
Non, mais aujourd'hui la situation elle est claire. Macron, il a ce qu'il mérite.
Mais
moi je le dis.
Et c'est
parce
pas
que
le sujet,
à force de pied
c'est
pas punir, c'est le sujet.
Non,
parce
non,
que
non.
Si. Non, mais vous allez.
On est d'accord.
Vous allez voir pourquoi je dis ça.
Vas-y.
C'est pas sur les revendications que je veux parler.
Vas-y.
Il a ce qu'il mérite, parce qu'à force de piétiner les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, les partis politiques, la représentation française, moi je parle à un niveau que je connais bien. Mm-hmm. Nous, on a fait des propositions au niveau de la mutualité, au plus haut niveau. Mm-hmm. Il nous a piétinés. Donc aujourd'hui, il a le résultat de ce qu'il recherche. Parce qu'à force de ne pas considérer les corps intermédiaires, aujourd'hui, il est en direct avec des gens qui ne sont pas désignés démocratiquement, mais effectivement.
Ça va se finir comment l'histoire alors.
On est pratiquement tous d'accord. On est pratiquement tous d'accord là-dessus. On sait que Macron, il n'a aucun contact avec la base. On le sait. Voilà. Mais c'était pas ça l'échange. Ah, l'échange là, c'était pas ça. C'était pas
le sujet,
ça.
C'était l'organisation, c'était, du voilà, logement.
La représentativité.
C'était que ils ont essayé de construire quelque chose. C'est parti sur quelque chose. Puis à l'arrivée, les huit, ben ils sont plus là. Ils sont plus que deux. L'autre et Éric Drouet, il a fait un tweet aujourd'hui où il a expliqué grosso modo que pour l'instant, il allait plus voir personne.
Voilà, je t'ai dit.
Il attendait d'avoir des élections. Alors peut-être que l'émission l'a fait réfléchir. Et il attendait d'avoir des élections un petit peu partout, des représentants dans chaque région, des Gilets jaunes.
C'est la source du mouvement proprement dit. Parce que c'est parti d'une petite vidéo de personnes sur Facebook. Moi, j'y étais le 17 novembre.
Mais je sais.
Parce qu'il y avait un engouement populaire.
Je t'ai vu avec ton, avec ton maillot jaune.
Mais parce que ça me sied à ravir en plus bien le sûr. Jaune. Donc oui. C'est pour ça que j'y étais.
J'avais relevé que ça allait bien à ton teint.
Ça fait un joli poussin. Ouais.
Non, mais sérieusement.
Il y avait un engouement populaire de toutes les classes. Mm-hmm. Pourquoi j'y étais ? Pour deux raisons. En tant que maire, d'une commune rurale. Parce qu'on est là aussi, malgré tout, pour défendre nos administrés. On met 300 euros par mois. Pour monter à Gap pour travailler par semaine. Par mois, pardon. Et puis j'y étais en simple citoyen aussi, parce que moi aussi, j'utilise ma voiture pour aller travailler. Donc cet engouement populaire est parti d'une base tellement élargie que c'est compliqué après de tout recentrer.
Mais oui, c'est ça. C'est bien le problème, parce qu'il n'y a pas pu y avoir de... D'ailleurs, dans les revendications, ça partait tous azimuts, et c'est bien là que à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le mouvement s'est un peu perdu, parce que c'est parti tous azimuts et que les revendications...
Ça s'est perdu aussi parce que la stratégie qu'ils ont en face...
Et puis il y a eu un peu de récupération
aussi.
Non,
mais la stratégie qu'ils ont en face, le gouvernement et le chef de l'État, c'est une stratégie qu'on connaît partout. C'est la stratégie du pourrissement. Aujourd'hui, il fait froid... Ah si, mais tu vois bien qu'il commence à s'user. Aujourd'hui, j'ai entendu, les derniers chiffres, c'est 5000 ou 6000, quoi. C'était 10 000 hier, enfin, ça baisse tous les jours. Mais c'est la stratégie du pourrissement, on l'a connue. Toutes les stratégies sont toujours les mêmes. On laisse pourrir le système, ça pourrit, ça va s'éteindre. En plus, il y a les fêtes de Noël, il y a le froid, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Les gens, ils ont envie quand même de rester en famille.
Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés d'objectif aussi ? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés d'objectif ? Parce qu'aussi, aujourd'hui, il y a des dégâts collatéraux quand même sur les manifs.
Je vous propose.
Parce qu'aujourd'hui, les commerçants aussi, ils en souffrent. Bah, absolument. Les commerçants, c'est aussi des gens qui payent les salaires à la fin.
Mais pourquoi ils ne répondent pas, le gouvernement, à la demande ? Ils pourraient faire un geste.
Il faut peut-être aller voir directement les services de l'État.
Il ne fait pas de geste du tout. Ils parlent d'une concertation dans une durée de 3 mois, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent les gens. Eux, ils veulent une réponse.
Les dommages collatéraux, y en a plusieurs qui ont commencé à en parler. Il y a Daniel Margot, le président de la CCI04. Il y a Didier Long, qui est le président de l'UDE04. Oui. Et Laurent Brutinel, qui était donc ce matin sur Alpeur.
Tout est mélangé, puisqu'aujourd'hui, on nous parle des taxes sur le carburant, on nous parle autant du SMIC à 2000 euros, comme on nous parle des migrants, sur les ronds-points, aujourd'hui, tout se mélange, qui fait que c'est un mouvement qui devient incontrôlable et non géré, on le voit bien. Quand ils bloquent l'entrée d'une zone, si on prend l'exemple de Tokoro, mais ça bloque pas uniquement Géant ou Leclerc. Ça bloque aussi des commerces qui sont à côté. Là, on incite les gens à consommer sur Internet. Donc celui qui se régale en ce moment, c'est Amazon. Lui, il emploie vraiment payé au minimum. Il ne paye pas d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices en France. Il ne paye pas les taxes sur la publicité que nous, on paye à la mairie de Gap. Il ne paye pas non plus de cotisations sur les salaires ici qui permettent d'avoir les bus gratuits dans les villes dans lesquelles on est. Parce qu'il ne faut pas l'oublier tout ça. On se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'ennemi du gilet jaune aujourd'hui, ce n'est pas le commerçant, quelle que soit sa taille. C'est Internet, bien souvent.
Alors ça, c'est un angle évidemment qu'on peut relever, effectivement.
Oui, il n'y a pas tort.
Aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que si ça bloque encore le week-end, et ça va encore bloquer, puisqu'ils vont évidemment bloquer à Paris, ils ont vraiment l'objectif d'aller sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a décidé peut-être de fermer complètement les Champs-Élysées, donc ça risque d'être un peu chaud patate sur Paris, mais ça va continuer effectivement à bloquer dans notre région et dans toutes les régions de France.
Le bon sens, c'est quoi ? Dans une affaire comme ça.
C'est ce que disait Morin tout à l'heure.
Voilà, moi je suis d'accord avec
Morin. Mais moi aussi, c'est pour ça
que... C'est pourtant pas ma sensibilité.
Mais moi non plus, mais c'est pas ça.
À un moment, quand tu as un blocage comme ça, tu fais un moratoire.
Mais oui, il faut
arrêter. Tu suspends la mesure.
Peut-être pas moratoire, mais...
Tu l'appelles comme tu veux.
Voilà.
Tu suspends la mesure et tu engages un dialogue.
Et oui.
Voilà.
Là, c'est
là, ils veulent y aller à la SERP. Le premier ministre
le maire de la France, on peut l'appeler comme ça, hein.
Le premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit ce matin? droit dans ses bottes, on garde le cap.
Donc, oui, ce que je dis depuis tout à l'heure.
Donc, on va à une rupture. Et c'est dramatique, quoi. Notre peuple, notre pays a besoin d'unité, de cohésion sociale. Aujourd'hui, ils font l'inverse. C'est irresponsable. Leur attitude.
La prochaine mesure qu'ils devraient faire, là, ils devraient lever le pied parce qu'il y a Noël qui arrive et tout. Mais ils disent, le prochain rendez-vous, c'est les européennes et on va mettre des bulletins jaunes dans les urnes. Sans rien. Et c'est ce qu'il faudra qu'il arrive.
Oui, mais alors. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu as?
C'est quand même au niveau européen aujourd'hui que la plupart des soucis et des directives te tombent sur la gueule en termes de taxes, en termes d'organisation, de gestion dans ton pays.
Alors, dans ces cas-là, le bulletin jaune doit être mis au niveau européen. C'est-à-dire que pas uniquement la France, mais les autres pays.
Mais sans être jaune, il faudrait qu'à un moment donné, le bulletin blanc soit aussi comptabilisé. Et peut-être ça ferait revenir bien des personnes aux urnes.
Si aller mettre un bulletin jaune sans rien, ou même avec une liste, mais le faire sur une liste jaune, déjà ça annule le vote. Et là, tu tiens une vraie prise en compte. Et je pense qu'il y aura énormément de gens. Tu vas mobiliser des gens au niveau de l'abstention. Et... mais en attendant, c'est aujourd'hui que
Pierre-Louis
comme
d'abord.
Ça qu'ils arriveront ce soir.
Et ensuite, Bruno.
Personnellement, je suis un légitimiste et je trouve que tous les présidents qui se sont succédés ont un peu lâché trop vite.
Ouais.
Et là, on a commencé...
Lui, il tient un peu trop, c'est ça que tu dis? Lui, tu vas dire qu'il tient un peu trop?
Non, pas du tout. Non, je dis simplement que ça a commencé... par du symbole. Le fait de taxer l'essence plutôt qu'autre chose, en disant quand même l'essence, c'est une matière fossile dont on sait que ça tue apparemment une personne sur 10 chaque année ou je ne sais combien, enfin c'est quand même assez énorme, et que les taxes que l'on va faire, ça augmente votre plein de quelques euros, mais cette problématique-là de l'augmentation du plein d'essence n'est sans commune mesure avec toutes les autres taxes. On était symbole contre symbole. Et personne ne voulait lâcher. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de Macron et je me dis que si lui veut être le champion du monde, celui qui tient contre tous en disant qu'effectivement, la fin du monde, c'est plus important que la fin du mois pour reprendre la phraséologie de
l'autre. Il faisait attention aux deux.
Mais
visiblement, le
symbole est quand même fort et on peut comprendre qu'à un moment donné, on se dise, en face de moi, j'ai des gens dont je comprends que la souffrance générale est transversale et collective, c'est autre chose que 3-4 euros de plus dans le plein de la bagnole et que c'est tout le reste. Donc, je vais me maintenir sur mes positions parce que ce que l'on retiendra si je fais marche arrière, c'est que je n'ai pas réussi à être capable, alors que Hulot vient de se barrer, d'être celui qui va réussir le problème de la transition écologique. Maintenant, on a dépassé ça et on oublie qu'on était symbole contre symbole. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'en sortir.
Alors, parce qu'il veut pas faire ça. Sa Ségolène face au bonnet rouge.
Il veut pas faire tout le monde.
Mais attends,
est-ce que tu connais pas, depuis que tu t'intéresses à la politique comme moi, est-ce que tu connais un président qui, à un moment donné, ou un premier ministre qui n'a pas reculé?
Ah oui, non, tous.
Il n'y en a pas, ils ont tous reculé sur un truc. Parce que c'est très français, ça. C'est comme ça. Et j'aimerais bien, et je le dirais pareil je l'aurais dit pareil, et je l'ai certainement dit pareil pour tous les autres présidents, qu'ils soient de droite ou de gauche. À un moment donné, quand on a élu un président ou une présidente, elle a la légitimité de faire ce qu'elle veut. Parce que c'est comme ça, c'est la démocratie.
Ah ben non.
C'est
pas parce que tu es élu président que tu fais ce que tu veux.
Non.
On est dans une démocratie.
Si. Attends.
Et c'est là où les corps intermédiaires jouent un rôle.
Le souci, c'est que le discours n'était pas le bon. Il nous met ça sur la transition écologique.
Oui, c'est ça le problème.
On nous dit, voilà, on augmente les taxes puisqu'il faut supprimer les moteurs thermiques. J'ai interpellé la députée là-dessus. J'ai dit, mais si on veut revenir au moteur essence plutôt que diesel, initialement, à ce moment-là, on fait l'inversion des tarifs plutôt que de tout monter vers le haut. On me dit, mais il faut sortir du moteur thermique. Quelle est la solution aujourd'hui qu'on nous propose à côté les véhicules électriques, comment ils se rechargent avec de l'énergie nucléaire?
Mais je te poserai la question autrement.
Et tu fermes les centrales.
Est-ce que tu penses...
Il n'y a pas d'alternative.
Ce qui serait vraiment impossible à réaliser, mais pourtant qui réglerait le problème tout de suite, je raisonne par l'absurde, c'est de dire à partir de demain, le carburant, c'est 8 euros à la pompe. Le litre.
Non mais
tout de suite, on s'éloigne. On va passer à l'électrique.
On s'éloigne du débat parce que moi je pense que la symbolique là où il s'est planté Macron, c'est sur la symbolique comme tu disais Pierre-Louis. Il s'est planté parce que il nous a collé le 80 km/h qui ne servait à mon avis pas grand chose. Après, il nous a augmenté il nous a.
On s'en fout du 80. Ça, c'est pas le sujet là aujourd'hui.
Il y a 80. Après, il y a les 30 centimes d'augmentation qui nous met sur le gasoil, enfin sur l'essence, enfin le carburant, etc. Mais il nous a fait croire que c'était pour la transition écologique, mais personne ne croit. Le gilet jaune de base, le mec, qu'est-ce qu'il voit ? Quand le taxe plus, et c'est ça, c'est le ras-le-bol, c'est le départ.
Il passe à la pompe, il a 10-20 euros de plus.
Et la transition écologique, les gars, ils l'ont dit, mais il va nous donner 1000 euros pour acheter une bagnole, on n'aura pas les moyens d'acheter une bagnole plus propre. Il veut nous donner 100 euros sur une fenêtre, mais on n'a pas les moyens de changer toutes les fenêtres. Il est là.
Tu dis que je dis que c'est du symbole dis qu'il s'est trompé sur le symbole.
Oui.
Tu as une voiture, tu roules à quoi ? Diesel ou essence ?
Diesel.
Diesel.
Hein ?
T'as pas remarqué que, assez curieusement, dans toutes les stations, les pompes qui sont vides, c'est le diesel, alors que l'essence, il en reste. T'as pas remarqué ça ? Donc ça prouve bien qu'à quelques centimes, parce qu'on c'est du symbole la différence de prix, à quelques centimes, ça fait quand même changer le comportement des consommateurs. Donc si en ce moment, depuis longtemps, on se dit vaut mieux acheter un diesel qu'un essence, on n'est pas encore dans la problématique que l'on devrait tout savoir si vraiment on pense à notre planète. Je dis pas que c'est important, je suis pas un écologiste, moi je suis comme vous quoi. J'ai pas envie qu'on meure de parce qu'on a trop de pollution. Je me dis qu'on devrait se dire j'ai une voiture thermique. Où je prends une voiture électrique. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. On est en train de se disputer, à la pompe, on le voit, est-ce que je prends une diesel ou est-ce que je prends une essence ?
Je pense qu'on roule de la farine.
Je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Parce qu'on n'a pas fini.
On reste un peu sur notre faim.
Je suis désolé, les enfants, qu'est-ce que vous voulez ?
On va recommencer l'apéro, alors.
ce sont des choses qui arrivent quelquefois. Voilà, il y a des émissions comme ça, on aimerait bien que ça dure encore un peu. Bon, on ne peut pas. Voilà. Donc, on se retrouvera et Philippe, tu reviendras parce que c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à tous, à vous tous, les gars. On se retrouve très prochainement, bien sûr, c'est-à-dire dimanche prochain. Qui sera notre invité dimanche prochain ?
Ah, Marcel.
Marcel Canard.
Marcel, si tu nous écoutes.
On t'atteint.
On est combien ? On est combien ? On est
28.
Le 2. Gérard Tenoux. C'est Gérard Tenoux qui sera avec nous dimanche prochain.
On lui parlera de la fibre optique.
Ouais. L'homme de Loul.
On lui parlera de ça, on lui dira que c'est un vrai bordel. Hein,
ouais,
là, ça marche pas du tout.
Gérard, ça nous coûte cher.
Gérard, si tu nous écoutes...
Je vous laisserai 2-3 messages de lui faire passer.
On t'attend avec impatience. Allez, passez un très bon dimanche et rendez-vous donc la semaine prochaine.